Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'Agité du local pour une nouvelle semaine d'émission autour de l'actualité en Mayenne. Vous le savez, actualité au sens large, puisqu'aujourd'hui on va parler de ces ateliers d'aide pour les élèves en terminale, puisque oui, effectivement l'année avance et ils doivent bientôt s'inscrire, et déjà ils peuvent déjà le faire sur Parcoursup pour leurs vœux pour l'année prochaine, mais pas toujours évident de trouver les mots pour faire leur lettre de motivation et pour trouver ce qu'il faut en tout cas pour faire leur dossier. C'est pour ça qu'était organisé cet atelier à Château-Gontier mercredi. On vous raconte comment ça s'est passé. Et puis on va aussi entendre l'interview de Maël Grenier, le directeur du Carré à Château-Gontier, qui fait un point sur leur nouveau temps fort autour de l'écologie. Ça s'appelle Autant pour nous. Il y a beaucoup de propositions très variées, vous allez l'entendre. Et puis on va commencer aussi un nouveau feuilleton en ce lundi autour des associations qui font partie du collectif UND Unissons nos différences, qui ont lancé il y a déjà quelques semaines les semaines justement d'éducation contre les discriminations. Et on va aujourd'hui s'intéresser pour ce premier épisode à l'exposition proposée par la Ligue des droits de l'homme en Mayenne à l'ASCOMAM autour des représentations de la colonisation. Et puis notre chronique ce lundi, c'est celle de la... Là aussi, on va retrouver la Ligue des droits de l'homme en Mayenne, mais sur un autre sujet, sur la concentration des médias notamment et le collectif Stop Bolloré. Mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité avec les urgences de Laval qui sont à nouveau fermées la nuit jusqu'à mercredi matin. Vous devrez appeler le 15 avant de vous présenter sur place. Seules les urgences vitales seront prises en charge, les autres patients seront réorientés ou reconvoqués le lendemain. Un dispositif reconduit à cause du manque de médecins urgentistes depuis plusieurs mois. Cette situation aux urgences qui fera certainement partie des questions adressées aux représentants des candidats à l'élection présidentielle qui seront auditionnés chacun leur tour demain après-midi à l'espace Mayenne à Laval à l'initiative de l'Association des citoyens contre les déserts médicaux. Et puis une deuxième usine de Lactalis à l'arrêt en Ukraine. Le géant mayennais de l'agroalimentaire a décidé de mettre à l'arrêt deux de ses trois usines à Choska et Nikolaev avec l'intensification du conflit avec la Russie. Pour l'instant, le site de Pavlograd continuerait de fonctionner normalement. L'entreprise emploie sur place 850 personnes et toutes seraient en sécurité. En football, les Tangos sont leaders de National. Après leur victoire 3-1 samedi soir à domicile contre Créteil, le prochain match ce sera aussi samedi, mais là en déplacement à Châteauroux. Victoire aussi du côté des basketteurs lavallois ce week-end qui enchaînent avec une 6e victoire consécutive en s'imposant face à Villeneuve-sur-Lot samedi 95-73. Prochain match toujours à domicile samedi contre Poitiers. Et puis en futsal, le maintien assuré pour l'étoile lavalloise qui l'a emporté 3-2 contre Hérouville samedi. Elle vise désormais la 4e place de D1. Et puis je vous le disais en tout début de cette émission, il reste 3 semaines aux élèves de terminale pour faire leurs vœux sur Parcoursup, la plateforme d'inscription pour les études supérieures. Après les portes ouvertes des établissements en janvier et février, place aux demandes auprès de chaque université ou école, avec une lettre de motivation pour chaque formation, mais pas toujours simple de se lancer. Alors pour aider les élèves concernés, un atelier a été mis en place mercredi à l'ERJ, l'espace ressources jeunesse de Château-Gontier, et il a trouvé son public, confirment Camille, Maëlys, Gwenaëlle et Emma.
Je savais que je voulais plutôt faire des licences de sciences politiques, et c'est une filière plutôt sélective, donc c'est important d'avoir une bonne lettre de motivation. Sinon, je pense que j'aurais demandé à mes parents et regardé des exemples sur Internet, mais ça ne m'aurait pas aidé de la même façon. Ça aurait été moins précis, j'aurais pas eu de conseils directement. On a un petit groupe et du coup, on a un bon échange avec les personnes qui font l'atelier.
Même pour plus tard, si on a à faire des lettres de motivation pour... des jobs étudiants ou même pour des emplois, ça peut toujours aider de savoir quelle forme donner, quoi dire. Et je pense partir en faculté de psychologie.
Déjà, j'ai appris que par rapport au campus d'Angers, que c'était un des meilleurs, donc que j'ai pu le caser dans ma lettre et trouver comment commencer, certaines choses à dire que j'aurais pas dites de moi-même. Moi, je suis pas trop sûre de moi, mais j'envisage des études de santé parce que vraiment, je suis pas du tout sûre de mon orientation. Je pensais pas que ça arriverait si vite, donc j'avais pas trop pris le temps d'y penser avant, même si j'ai toujours eu des idées, mais ça n'a jamais été évident. Même si dès le début de l'année, quand on arrive au lycée, premier jour de terminale, vous avez Parcoursup, vous avez le bac. Et c'est vrai qu'on se dit, mince, je ne sais pas ce que je veux faire, il faut que je trouve vite. Et ça met un peu une pression, mais je pense que c'est plus nous-mêmes qui nous la mettons.
Ça fait un peu peur aussi, vu qu'au début, je ne savais pas trop vraiment ce que je voulais faire. Et puis vraiment, l'avenir est directement dans le monde du travail. Ça peut effrayer et donc c'est pour ça qu'aussi c'est bien d'avoir quelqu'un qui est là pour nous aider puis nous encourager aussi dans tout ça.
Encourager et rassurer, deux maîtres mots pour Hélène Amar, psychologue de l'éducation nationale rattachée au Centre d'information et d'orientation de Mayenne Sud.
Ce qui peut aussi être difficile chez les élèves, c'est de faire du lien entre les actions qu'ils ont pu déjà réaliser, à savoir les portes ouvertes, les immersions et la formation qu'ils souhaitent. Il est également souvent très difficile pour les élèves de cibler leurs qualités, puisque c'est un exercice qu'on leur demande rarement, de montrer ce qu'ils font en dehors de l'école, parce que là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on leur demande rarement. Il faut un peu relativiser ce choix de terminale qui n'est pas un choix de 40 ans de carrière. Quelquefois aussi, on n'est pas forcément prêt à choisir en terminale. Donc, on peut aussi travailler sur des projets qui me permettent de retarder ce choix-là. Puis, quelquefois, le choix qu'on fait en terminale, ma foi, un an ou deux ans après, ça ne correspond plus à nos attentes parce qu'on a changé, parce qu'on a évolué. C'est pas grave, on refait d'autres démarches.
Les élèves de terminale ont donc jusqu'au 29 mars pour ajouter des vœux et jusqu'au 7 avril pour finaliser leur dossier. Renseignements auprès de l'ERJ les mercredis après-midi et samedi à la médiathèque de Château-Gontier. Et puis on reste à Château-Gontier avec ce nouveau temps fort proposé par le Carré, autant pour nous autour de l'art et de l'écologie. On en parle juste après avoir écouté Thank You de Morgane. Thinking about the light that gave us the sky, touching the stars, imagining I can fly. I'm feeling so fine, but wondering why. Maybe you are no longer by my side, and I'm glad I'm so cheerful to be far from that. Feeling the breeze so fresh in my face, touching the beats and with my hands, can see the power of the waves, and then I become a someone.
Caressing my skin and all.
toujours à l'écoute de l'autre radio. Et c'était Morgane avec Thank You que vous venez d'entendre dans la JT du local. Mêler arts, écologie et citoyenneté, c'est le but du nouveau temps fort proposé par la scène nationale du Carré à Château-Gontier sous la bannière Autant pour nous. Une quinzaine de propositions entre le 8 mars, donc demain, et le 2 avril. Entre conférences, théâtre, ateliers et projections, zoom sur ce qu'il ne faut surtout pas manquer avec Maël Grenier, le directeur du Carré. L'interview est menée par Christophe.
On ne pourra pas, Maël Grenier, développer l'ensemble des propositions. On renvoie à ce titre vers le programme détaillé qui est présent sur votre site, le-carré.org. Mais évoquons tout de même quelques propositions. Le lancement se fait donc le mardi 8 mars à 20h30 au Théâtre des Ursulines par une rencontre, celle du public évidemment, et de deux artistes. La première est ethnomusicologue et le second est cofondateur du collectif que vous venez d'évoquer, de la Meute. Quels sont les enjeux de cette première rencontre ?
Ben justement, cette rencontre, donc c'est une rencontre avec Corinne Sombrin, donc ethnomusicologue dont je viens de parler sur ses explorations de la transe auto-induite, et Jérémy Mocard, cofondateur du collectif. Et ben les enjeux, c'est comment une expérience aussi particulière, aussi singulière que celle de la transe auto-induite, que nous ne connaissons pas, hein, pour nombre d'entre nous, peut nous aider à prendre conscience de l'ensemble du vivant, en fait de la coexistence du monde vivant autour de nous. C'est-à-dire que l'expérience de Corinne Sombrin va nous permettre d'ouvrir ou d'entrouvrir une porte sur d'autres mondes possibles, d'autres mondes réels, qui elle le dira elle-même évidemment à travers cette pratique-là, permet d'ouvrir un regard sur toute une part de notre réalité ici, là on est voilà, dans mon bureau, il y a une plante à côté on a Château-Gontier juste à l'extérieur. Quelles sont les autres formes de vivant qu'il y a autour de nous et dont on n'a pas conscience dans notre monde habité, dans notre monde humain? Donc on ouvre ce chapitre avec cet enjeu qui est la question de la cohabitation. Voilà, la cohabitation du vivant. Donc le vivant, c'est le vivant visible, voilà, nous les humains, quelques animaux domestiques, quelques animaux sauvages qu'on peut peut-être croiser au bord des routes, et le vivant invisible. Donc le vivant invisible, c'est toute la communauté sauvage que nous ne voyons pas mais qui nous voit. C'est toute une communauté peut-être dont on n'a pas conscience du tout en tant qu'humain. Et ça, pour moi, ça permet, si vous voulez, ce premier opus, ça permet d'ouvrir large le champ des possibles sur notre coexistence à tous et comment on doit, pour imaginer un demain désirable, comment on doit commencer à ouvrir notre regard, éveiller nos consciences à des choses qui nous paraissaient, enfin qui nous étaient totalement invisibles jusque-là.
Cohabitation, coexistence, deux notions essentielles de nos jours, pendant que certains souhaiteraient nous voir vivre en autarcie. Une autre rencontre avec cette fois une habituée du Centre d'art contemporain, Eva Proutot, ce sera le jeudi 10 mars, 18h30, dans la salle de réception des Ursulines. Eva Proutot qui s'inspire d'une exposition pour mettre en lumière toute l'ambivalence de nos sentiments et ressentiments face aux éléments de la nature.
Voilà, c'est ça. Derrière ce temps fort, il y a aussi un regard plastique, un regard d'artiste plastique contemporain, sur tout ce que le monde peut apporter de tremblements. Ça s'appelle les tremblements du monde, c'est-à-dire toutes les catastrophes, tous les débordements d'énergie vivante, vitale, naturelle. Comment les artistes se sont saisis de ces forces extraordinaires et comment ils les traduisent plastiquement, artistiquement. Quel est leur regard sur cette présence immanente de la force naturelle, de la force de la nature?
Avec une très belle illustration d'ailleurs à découvrir dans le cadre de cette conférence. Alors je précise que certains rendez-vous se jouent déjà à guichet fermé, je pense notamment à la conférence Ovipare du professeur Roger. Je vous invite donc à prendre contact dès à présent pour réserver, c'est au 02 43 09 21 52. Alors on peut évoquer un autre artiste, Maël Grenier, c'est David Wall, que l'on retrouvera dans plusieurs propositions de ce temps fort.
Oui, alors David Wall, c'est un artiste qui est artiste associé à Océanopolis, centre de recherche scientifique marine à Brest. Et un peu, je dirais, c'est un hasard, mais j'ai eu l'occasion de le découvrir, de découvrir un de ses spectacles, et puis de découvrir un autre spectacle dont il est l'auteur, dont il n'a pas fait la mise en scène ni le jeu, mais il est auteur. Et un fil rouge comme ça s'est dessiné, puisque c'est un artiste qui a une singularité, c'est qu'il travaille vraiment à la découverte de données scientifiques qu'il retraduit, qu'il retranscrit évidemment de façon très personnelle avec une écriture qui lui est vraiment propre. Et il travaille à l'émergence de la conscience écologique. Donc on va le retrouver sur trois rendez-vous. Donc le premier qui est Histoire de fouille, qui est un spectacle familial, jeune public, sur la question du plastique. Hein, on se trouve en situation d'un archéologue qui recherche des ossements préhistoriques et qui finalement découvre autre chose que ce qu'il pensait trouver, puisque la terre qu'il fouille est finalement truffée d'éléments de plastique. Donc on se projette loin dans l'avenir. C'est-à-dire que lui, il fait des fouilles peut-être de notre monde d'aujourd'hui. Et notre monde d'aujourd'hui, voilà, est un peu infesté d'éléments plastiques qui ont une origine, une production, une surproduction en tout cas plastique mondiale. Donc il apporte une vulgarisation, en tout cas un éclairage sur la question du plastique et l'encombrement matériel d'aujourd'hui pour les enfants, avec vraiment un aspect ludique et très très pédagogique. Donc ça, c'est le premier spectacle. Un deuxième spectacle dont il est l'auteur, mais qui est mis en scène par le Théâtre Piba, une compagnie brestoise, qui s'appelle Donvor, qui est issu d'une exploration qu'il a fait à l'invitation d'Océanopolis avec des scientifiques du monde entier, une exploration océanique vers les fonds marins, les grands fonds marins, Atlantique et Pacifique, et sur la présence justement du vivant dans ces espaces qui sont pour le coup invisibles, c'est-à-dire là où la science n'arrive pas forcément n'arrive pas jusqu'à la limite de ces grands fonds. Et donc là, ça donne lieu à une pièce radiophonique, une pièce théâtrale radiophonique, donc c'est une autre expérience sensorielle qui est très très qui est très subtile, qui est à découvrir avec les oreilles et les autres sens, évidemment.
Donvor, on peut le préciser, ça signifie la
mer profonde, en breton, exactement. Et le dernier spectacle sur ce fil rouge de David Wahl, qui est le sale discours, qui est une proposition édifiante, mais vraiment incroyablement intéressante et documentée, intelligente, sur la question de la saleté et de la propreté. Et il nous montre comment l'humanité, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, est finalement paradoxalement de plus en plus propre, comme nous le sommes nous. On prend une douche à peu près tous les jours, et on est vraiment dans une dimension pour le coup, on parle de sanitaire aujourd'hui, antimicrobienne exceptionnelle, et en même temps, paradoxalement, on est dans un monde qui est de plus en plus sale. Et ça, c'est extraordinaire. J'invite vraiment les gens à découvrir ce travail-là. C'est mis en scène par Pierre Guillois. Là, c'est David Wahl qui a écrit et qui joue. C'est édifiant. Voilà. On apprend énormément de choses. On rit parce qu'évidemment, on est face à nos contradictions. Et en même temps, ça nous laisse songeurs et interrogatifs sur notre situation.
David, qui ne m'en voudra pas pour la prononciation américaine de son nom de famille, c'est bien David Wahl et pas David Wahl. Autant pour nous, donc, un événement qui va vous bousculer, vous interroger, vous faire parler, vous faire respirer. Le programme intégral est à retrouver sur le site du Carré. Et vous clôturerez le samedi 2 avril, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ouais. Maëlle Grenier, par ce qui maintient aujourd'hui la biodiversité sur Terre, ouais. L'univers des abeilles. C'est une forme, on parle d'économie circulaire, là c'est une forme d'art circulaire. Vous terminez par ce qui constitue la base de notre existence.
Oui, c'est ça. On va vers l'infiniment petit, c'est sûr. On parle du visible et de l'invisible. Les abeilles sont effectivement nos premières alliées, celles qui pollinisent et celles qui nous permettent d'avoir des fruits, des légumes aujourd'hui. Et c'est sûr que le collectif de la Meute qui se penche sur cette réalité-là y est très sensible. Il se trouve d'ailleurs que Jérémy Mocard, qui intervient avec Corinne Sombrin en entrée de temps fort, lui-même, il est artiste, auteur, et depuis peu, apiculteur. Il a fait aussi ce chemin-là, il fait un chemin personnel d'exploration, de découverte et de pratique vers ce monde des abeilles, qui est un monde extrêmement fragile. Je pense que beaucoup savent à quel point la communauté des abeilles et le nombre d'abeilles a été décimé ces dernières années à cause d'une présence excessive d'engrais chimiques et autres produits qui viennent perturber leurs ADN et leur reproduction. Et aujourd'hui, ce spectacle, à travers le collectif, permet juste d'avoir une évocation poétique de leur présence discrète et leur présence indispensable à notre avenir.
Venez développer votre lucidité, votre humilité entre le 8 mars et le 2 avril. Pour autant pour nous, c'est au carré. Dernière question, Maëlle Grenier, vous avez vécu une première saison en tant que directeur quasiment atone, une deuxième laborieuse. Comment envisagez-vous la troisième, 2022-2023? Est-ce que vous dites que vous allez pouvoir enfin profiter du dessert sans qu'on vous éteigne les chandelles?
C'est ça. Joliment dit, c'est ça.
Je reprends une expression à vous.
C'est ça. Mais c'est important, je dirais, pour rebondir sur ce qu'on vient de se dire. Il y a eu une première édition qui était interrompue, 2021. 2021-2022, elle se fait, elle ne s'arrête pas, mais elle est effectivement atténuée. Elle reste active parce qu'on a du public et les chandelles restent allumées. Donc on maintient le feu, mais elle est malgré tout... très prenante en énergie, elle est fatigante, les équipes partout, de toute structure, les équipes sont fatiguées, au même titre que la population nationale et mondiale est fatiguée. On essaie de garder cette lampe allumée parce qu'elle est indispensable pour tout le monde. Je dirais que la saison prochaine, là je suis en train de la boucler, j'essaye moi-même de m'appliquer ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire autant pour moi. On a reporté un certain nombre de spectacles sur cette saison, ce qui fait qu'on a une surnumération de spectacles. On a beaucoup, toutes les structures culturelles connaissent cet effet-là, donc beaucoup de spectacles, une proposition assez dense, assez riche cette année, avec un retour public qui est quand même présent, mais qui est un petit peu atténué par toutes les questions sanitaires et les inquiétudes que ça a provoquées. J'espère évidemment que la prochaine saison est une saison d'oxygénation, où on va retrouver enfin l'air libre. Et de mon côté, j'essaye de ne pas apporter trop de propositions, ne pas trop charger, et pour mon équipe et pour le public, parce que on est à un moment où on va dire les oscillations, les ondulations doivent se rapprocher. On doit essayer de retrouver quelque chose d'un peu plus stable. Et pour moi, cette stabilité, ça passe par peut-être un petit peu moins de propositions que cette année, parce que la saison était très très intense, très dense. Un petit peu moins, je dirais. Mais encore un petit peu mieux, c'est-à-dire rentrer davantage en profondeur dans les rencontres, en profondeur dans les rendez-vous, dans les expériences, et puis faire en sorte que le phare soit toujours allumé, quelle que soit la météo autour de nous, quoi. J'ai toujours le breton en moi ne peut pas s'empêcher de de ramener ça.
Merci pour cette métaphore. Maëlle Grenier, je rappelle que vous êtes directeur du Carré, vous avez évoqué pour l'autre radio et le magazine Bouger en Mayenne, Autant pour nous, qui se tient du 8 mars au 2 avril. Toute l'info sur le site du Carré. Merci Maëlle Grenier.
Merci beaucoup.
Et merci à Christophe pour cette interview. Vous pourrez aussi réécouter sur notre site l'autreradio.fr l'interview de l'ethnomusicologue Corinne Sombrin, qui a travaillé sur la transe chamanique mongole et qui sera donc en conférence demain soir. Donc à réécouter dans l'émission L'Agité du local du 2 mars. On va passer très vite, d'ici quelques minutes, à la chronique de la Ligue des droits de l'homme autour de la concentration des médias. Mais juste avant, on écoute Junior avec « À la plage ».
Changer d'air. plonger dans le paysage. Même si c'est vrai, j'ai passé là.
Nous a emmené à la plage dans la JT du local sur l'autre radio. Et tout de suite, on passe à la deuxième chronique de la Ligue des droits de l'homme avec la présidente de la section mayennaise de l'association, Anne de Georges. Deuxième partie de cette chronique dédiée à la concentration des médias et notamment au collectif Stop Bolloré.
L'hyperconcentration des médias est un sujet d'actualité qui inquiète la société civile. En effet, aujourd'hui, 9 milliardaires détiennent 90% des grands médias en France.
Mais alors, en quoi est-ce inquiétant ?
Cette concentration des médias au moins d'une poignée d'individus est inédite dans l'histoire de notre pays. Jamais quelques personnes n'ont eu autant de pouvoir. Détenir les grands médias leur donne la possibilité d'imposer des lignes éditoriales, c'est-à-dire de choisir les sujets qui vont être traités et la façon dont ils seront abordés sur la plupart des chaînes de télévision et dans les journaux. Cela limite et oriente le débat public et menace directement la liberté d'expression. Par exemple, des médias comme CNews ou Europe 1, appartenant à Vincent Bolloré, ont vu une part importante de leur rédaction démissionner après leur acquisition par ce dernier. 100 journalistes pour l'ancienne Itélé devenue CNews et 50 pour Europe 1. Leurs lignes éditoriales ont profondément changé, laissant le champ libre à une idéologie haineuse, raciste, homophobe et sexiste. Diffusés de façon régulière, ces discours d'exclusion se banalisent. Il ne s'agit plus dans ce cas d'informer les citoyens, mais de transformer, de formater les esprits. Et c'est la démocratie elle-même qui se trouve ainsi menacée.
Cette hyper-concentration concerne-t-elle uniquement l'audiovisuel ?
Malheureusement, non. Pour reprendre l'exemple de Vincent Bolloré, rien que dans le monde de l'édition, il possédera bientôt, si le rachat de Hachette se concrétise, plus de 70% des livres scolaires, la moitié des livres de poche et une centaine de maisons d'édition, avec en plus un quasi-monopole sur la distribution des livres.
Mais alors, comment résister à cette mainmise ?
Plusieurs voies sont possibles, et la société civile, les associations, les citoyens réagissent. Lorsque des discours haineux sont diffusés, tout citoyen ou organisation a la possibilité de saisir l'ARCOM, qui est l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'est l'ancien CSA. Cela peut être fait de façon très simple sur le site de l'ARCOM, onglet Alertez-nous. Des saisines pétitionnaires sont également possibles. Un autre exemple d'action, la formation du collectif Stop Bolloré, regroupant un très grand nombre d'organisations et personnalités le 16 février 2022, qui s'oppose à la fois au quasi-monopole sur les médias par voie juridique et au contenu haineux avec une saisine pétitionnaire de l'ARCOM via le site internet du collectif portant le même nom, stopbolloré.fr. Et enfin, un autre pouvoir de chaque citoyen est celui de soutenir les médias indépendants, radio indépendante comme l'autre radio, ou des librairies indépendantes comme M-Lire au niveau local à Laval et à Château-Gontier. Multiplier et croiser les sources d'information, participer à des débats afin de retrouver les fondamentaux qui sont les droits de l'homme et du citoyen. Pour approfondir ce sujet, une projection débat du documentaire Media Crash aura bientôt lieu au cinéma Le Palace à Château-Gontier, le 17 mars à 20h30, en présence de Fabrice Serfi et des membres de la section Laval Mayenne de la Ligue des droits de l'homme.
Et on vous reparlera bien sûr de cette date un petit peu plus tard dans cette émission. Retrouvez donc une prochaine chronique de l'association de la section mayonnaise de la Ligue des droits de l'homme dans 15 jours. Premier épisode de notre feuilleton autour des associations du collectif UND, Unissons nos différences, qui organise jusqu'à la fin du mois de mars les semaines d'éducation contre les discriminations. Et aujourd'hui, Alain Vignier de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne, justement, on suit un peu l'association, nous présente une exposition présente à la SCOMAM à Laval jusqu'à dimanche, donc jusqu'au 13 mars. Cette exposition qui raconte l'histoire coloniale reflétée par des caricatures, des images ou des publicités du XVIIe siècle jusqu'à 1962, avec même une réflexion jusqu'à aujourd'hui.
Pratiquement jusqu'à la fin de la colonisation, c'est-à-dire 1962, les Français voyageaient très peu. Donc ils n'ont connu de la France d'outre-mer ou de l'Empire colonial ou de l'Union française que les images qu'on leur en a données. Et ces images ont laissé des traces très profondes, puisque la manière de voyager que nous avons aujourd'hui ne nous met pas du tout en contact avec les pays, dans la plupart des cas, dans leur réalité actuelle, et encore moins en contact avec la population. Et la population, on dirait, de ce qu'était autrefois l'Union française ou l'Empire colonial français, on la connaît au travers de ses descendants issus de l'immigration en métropole, avec les tensions ou les problèmes que ça pose. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement complexe, et ça nous semblait important d'appeler, en quelque sorte, l'intelligence du public sur la nécessité de respecter cette complexité. Et la meilleure manière de la respecter, la complexité, c'est de s'intéresser, de prendre l'histoire telle qu'elle est et non pas telle que certains peuvent être tentés de la raconter. Cette histoire-là, elle est présente au travers de l'immigration postcoloniale en France. Et donc on ne peut pas, je pense, aborder sereinement la diversité française liée à l'immigration postcoloniale sans connaître l'histoire coloniale et sans avoir une idée de la manière dont cette histoire a été racontée aux métropolitains au moment de la colonisation, et alors que les métropolitains, pour la plupart, étaient des gens qui ne sortaient pas beaucoup de chez eux. L'image classique qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'histoire de Yabon Banania. Combien d'enfants ont pris leur petit déjeuner avec le paquet de chocolat sur la table de la cuisine? Yabon Banania. Et à force de voir ça, ça imprime, d'une manière qu'on n'identifie pas, une représentation du colonisé. Et moi, j'ai présenté l'exposition des personnes comme ça à la volée. Ah, Yabon Banania, quand j'étais enfant. Donc ça, c'est une image qui était extrêmement forte par rapport à ça. Alors, il y a une autre image très récente qui a fait parler d'elle. C'est l'histoire, en Loire-Atlantique, du parc d'attractions Bamboula, qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui. Il y a un contentieux social avec les personnes qu'on a fait venir d'Afrique pour peupler ce village qui était présenté comme un spectacle aux gens qui venaient visiter ce parc d'attractions. Et ça, ça fait moins de 20 ans, ou à peine 20 ans. Donc voilà des images. Alors l'exposition en présente beaucoup. Il y en a une, moi, qui me marque pas mal. C'est un tableau, magnifique tableau, du milieu du 19e siècle, qui représente Victor Schœlcher, qui est considéré comme le père de l'abolition de l'esclavage, ce qui est le cas, en train d'annoncer l'abolition de l'esclavage dans les îles aux esclaves qui sont en train de faire éclater leurs chaînes. Et quand on regarde le tableau très attentivement, on voit le drapeau français, on voit Schœlcher debout avec son écharpe de député ou de parlementaire, avec des militaires français, tout fringant, tout propre derrière lui, avec des jeunes femmes habillées comme si elles allaient au bal. Et à côté, un peu en vrac, dans le désordre, à moitié nu, les esclaves libérés. On voit bien, pour le dire, à cette époque-là, comme qui dirait, nous n'appartenons pas au même monde.
Une exposition donc à voir à la SCOMAM à Laval jusqu'au 13 mars, c'est-à-dire jusqu'à dimanche, avec une autre exposition au même endroit, celle de l'AMAV, l'Association Mayennaise d'Action auprès des gens du voyage, exposition dont nous parlerons demain. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce lundi. Restez avec nous puisqu'à l'antenne à 19h, il y aura Solénoïde. Ce sera suivi par la discothèque du programmateur à 20h et puis à 21h de l'Aléatoire. Nous, on se retrouve demain à 12h15, je vous souhaite une très belle journée.